merci tout le monde d'être présent. Merci Fraser d'avoir bien mis la table, je pense, pour la suite de nous tous, des intervenants qui suivent. Donc, comme Fraser, ma première réaction quand j'ai regardé le document sur les objectifs de développement durable, c'était un peu « wow, 17 buts, 169 cibles, aïe, c'est ambitieux et comment on va suivre tout ça? » Mais comme lui aussi a regardé de près, on ne peut que réaliser ces objectifs en les prenant comme un ensemble et en ayant des approches holistiques. Donc, le développement, on le sait, ça passe par une série de mesures de services qui permettent aux citoyens d'exercer leurs droits. Et il ne suffit pas d'avoir accès à un droit. Ils sont indivisibles, ils se font ensemble. Je ne peux pas avoir accès à la santé et ne pas avoir accès à l'éducation, à un travail digne, etc. Donc, je pense qu'on peut saluer que, finalement, cette consultation a mené à une vision plus holistique du développement et pas juste sur quelques axes qui sont plus peut-être les services de base. Donc, voilà. Mais une approche holistique exigera, je pense, et je ne suis pas seule à le penser, un changement quand même notoire au niveau des bailleurs de fonds, mais aussi au niveau des ONG internationales comme Oxfam ou comme d'autres, pour relever le défi. L'approche par projet qui a été beaucoup prônée par beaucoup de bailleurs depuis plusieurs années, en particulier le gouvernement du Canada, je devrais dire, depuis plusieurs années. Donc, des approches par projet, assez court terme, souvent dans des domaines très précis, ne favorisent pas une approche holistique. Ça favorise une approche, moi j'agis sur ça, l'autre agit sur ça, mais il n'y a pas nécessairement une intersectorialité entre nos approches. Donc, même on dirait que plusieurs bailleurs, incluant les grandes fondations, les philanthropes, cherchent aussi à avoir des résultats chiffrés, impressionnants, mais à court terme. Donc, ça n'amène pas à des approches holistiques qui promouvent un changement durable dans le temps. Si je prends un exemple concret, je peux regarder le programme de santé maternelle et infantile du gouvernement du Canada, qui est dans sa 7e année, cette année de programmation. C'est un programme qui livre des chiffres très impressionnants, par exemple, sur la couverture de vaccination dans un pays X ou même dans une région, qui va avoir des chiffres impressionnants aussi de femmes qui accouchent de bébés en santé. Tout ça, c'est très louable. Mais il faut se poser la question, et après? Donc, est-ce que les États, localement, après ces projets-là, ont la capacité de livrer ces mêmes programmes de vaccination après, pour le futur, pour leur propre population? Est-ce que leur système de santé a les ressources pour continuer à faire un appui prénatal, postnatal, par exemple? Et les femmes aussi ne se résument pas à une mère, mais une femme a une vie au-delà de ça. Est-ce qu'elle a des revenus pour ses enfants par la suite? Donc, toutes ces questions-là, avec une approche projet plus par secteur, on arrive difficilement à approcher le tout et avoir un développement holistique. J'ajouterais que les appels de propositions aussi, des dernières années, c'était des canevas assez rigides et qui, beaucoup d'éléments des programmes sont définis à l'avance par les bailleurs. Donc, même si les organisations de coopération ont une longue histoire de travailler en consultation étroite avec les populations locales, avec les organisations locales et même les États décentralisés, les municipalités par exemple, le terrain de jeu était déjà cané au départ, ce qui fait que ça pose la question, effectivement, de développement. Par qui? Et ça, c'est un enjeu majeur qu'il faudrait changer totalement si on veut atteindre tous ces beaux 17 objectifs qui sont interconnectés et qui sont indivisibles. Donc, voilà. Si les objectifs de développement durable sont maintenant universels et que les États doivent donc les atteindre sur leur propre territoire, comme Fraser l'a bien dit, alors les États doivent être au centre de la livraison des services sociaux de base à leur propre population. Dans ce sens, les ONG doivent aussi se réinventer dans leurs approches. Il y a encore beaucoup d'organisations qui livrent directement des services aux populations. On comprend que la situation est difficile dans beaucoup de coins et qu'il faut le faire, entre autres dans les crises humanitaires. Mais même dans le secteur humanitaire, on est en train de se poser des questions parce que les crises multiplient et les organisations n'arrivent plus. Et la seule solution, c'est que les États locaux soient renforcés dans leur propre capacité de répondre, que les organisations locales, les groupes de communautaires soient capables de répondre de plus en plus par eux-mêmes. Donc, si l'État a cette responsabilité donc, de livrer ses services, ultimement, les objectifs de développement durable font un plaidoyer eux-mêmes dans ce sens en rendant les objectifs applicables au niveau national. La responsabilité devient très claire. Ce n'est plus l'extérieur qui va amener, je dois répondre moi-même, que ce soit ici ou ailleurs. Les populations locales doivent avoir les outils pour réclamer leurs droits auprès de leurs propres États, et les États doivent avoir les ressources pour répondre à ces droits-là. Et c'est là, évidemment, où il y a des défis énormes. Mais je pense que les ONG, si on veut continuer à être des partenaires solidaires qui sont auprès de nos organisations partenaires, on doit les accompagner dans leurs actions de plaidoyer de plus en plus auprès de leur propre gouvernement. On doit les appuyer dans la mobilisation citoyenne et on doit aussi influencer les bailleurs ici et au niveau international pour qu'ils visent l'atteinte des objectifs tels que formulés dans tous les pays ensemble. Pour y arriver, ça ne peut pas être business as usual. On a besoin de faire un peu de brasse camarade dans le milieu du développement et des bailleurs de fonds. Plusieurs États, on va me dire tout de suite, plusieurs États n'ont pas les ressources pour livrer les services de base et les systèmes de taxation font défaut dans plusieurs États. Ça, c'est clair. Il y a aussi la corruption. Il faut lutter beaucoup sur ces questions-là. Mais les États devraient mettre en place, en fait, les États, on le sait, doivent mettre en place des mécanismes de redistribution de la richesse qui sont efficaces. Mais ces États, malheureusement, sont influencés vraiment disproportionnellement par une petite élite fortunée qui use de son pouvoir et son argent pour créer des dynamiques économiques qui sont inégales, qui sont injustes et qui favorisent aussi la mise en place de lois et de règlements qui les favorisent eux-mêmes dans leur accumulation de richesses. Bon, les paradis fiscaux, entre autres. Ces lois, combinées à une corruption endémique dans certains pays, favorisent l'accroissement des inégalités extrêmes et empêchera la réalisation des objectifs de développement durable. Si les États ne peuvent pas mobiliser les ressources par un système de taxation qui fonctionne, ils ne pourront pas l'ouvrir les services. Et ça, je pense, si on regarde les 30 dernières années de travail de développement, c'est élu clair. Nous devons donc nous attaquer à ces lacunes plus sérieusement si on veut vraiment opérer un changement durable. Donc, si on me pose la question « Qui financera les objectifs de développement durable? », il me semble que la seule réponse, c'est les États eux-mêmes, poussés par leurs citoyens qui vont faire de la mobilisation et qui vont réclamer leurs droits, avec des appuis des bailleurs, des ONG, des instances internationales aussi. Excusez-moi. pour opérer ce changement majeur. Et en particulier de lutter contre les paradis fiscaux. Dans un rapport que Oxfam a produit en 2014 sur les inégalités, on a démontré ceci. Un impôt de 1,5% sur la fortune des milliardaires, juste des milliardaires, pas les millionnaires, de ce monde, pourrait rapporter 74 milliards de dollars. Cette somme serait suffisante pour combler les déficits annuels de financement nécessaires pour scolariser tous les enfants et fournir une couverture de santé de base universelle dans les 49 pays les plus pauvres. Ça, c'est un outil de taille pour réduire les inégalités extrêmes et livrer les objectifs de développement durable. Et ça, c'est juste 1,5% sur les grandes fortunes de ce monde. Or, on sait que ces fortunes ne sont que peu taxées. Ça, on est très conscient. Autant les individus que les sociétés transnationales utilisent une série de stratagèmes fiscaux pour faire de l'évitement et de l'évasion fiscale. Le recours aux paradis fiscaux, donc, prive les États des ressources nécessaires pour servir à une égalité des chances pour tous les citoyens. Nous savons que les capitaux, et je pense que tu l'as dit tantôt, hein, Bonnie, les capitaux qui fuient l'Afrique chaque année dépassent très largement l'ensemble de l'aide au développement qui rentre. Et Bonnie a cité 50 milliards. Le dernier chiffre que moi j'ai vu, ils estiment à plus de 150 milliards. Je pourrais vous donner la source, mais c'est dans le rapport d'Oxfam. Mais comme disait Bonnie, on peut pas tout évaluer parce qu'avec la corruption, il y a beaucoup de choses qui disparaissent. Mais c'est quand même incroyable. Le pire, c'est que ces paradis sont largement légaux. Donc, si on veut lutter contre ça, il faut qu'on lutte au niveau des lois. C'est là qu'on va changer quelque chose parce qu'on peut dire que ce que font les grandes sociétés comme Microsoft qui ont payé 4,5% des pots en 2011 ou Google à 2,4%, c'est immoral, mais malheureusement, c'est légal. Donc, il faut vraiment attaquer ça par le milieu légal. Il est temps de changer les lois qui permettent ces iniquités de perdurer. En 2015, le rapport d'Oxfam nous démontrait que 62 personnes possèdent autant que 3,5 milliards de personnes, donc la moitié de l'humanité la plus pauvre. Ça, c'était en 2015. En 2013, ils étaient 388. En 2014, ils étaient 80. Et là, ils sont 62. Donc, l'année prochaine, on va les acheter un minibus. Ça va marcher. Donc, il est fondamental qu'on trouve une façon de créer un cadre légal où chaque entreprise et chaque individu va payer sa juste part d'impôt pour le bien commun. Ça, c'est un grand travail à faire. On ne se nie pas, ce n'est pas simple. Il faudrait une collaboration inter-État, comme l'a mentionné Bonnie, au niveau des instances de gouvernance internationale aussi, pour changer le système de taxation internationale. Ça va prendre vraiment une grande collaboration et concertation. Ce n'est pas une bataille simple, mais je pense qu'on sent une petite opportunité qui se pointe. La discussion est sur la table. Les gens s'indignent, les petits secrets sortent du sac de plus en plus. Le secret bancaire commence à être percé. Il y a des gens qui ont même dû démissionner récemment. On aimerait bien que ces des sociétés soient plus sur la sellette. Mais même au Québec, on voit que ça commence. Donc, je pense qu'il y a comme une opportunité à saisir en ce moment et qu'un mouvement fort international pourrait avoir un impact pour créer cette fameuse instance qui pourrait lutter à l'évasion fiscale au niveau international. Et c'est seulement au niveau international on arrivera. Au national, il faut le faire aussi, mais les compagnies étant transnationales, n'ont pas de nationalité fixe. Pour nous, on trouve qu'il est temps de récupérer les sommes colossales qui échappent aux États et qui enrichissent une petite élite, qui d'ailleurs fait face à un défi quand même assez incroyable, le défi de ne pas être capable de dépenser l'ensemble de l'argent qu'ils ont dans leur vécu, ni de le vécu de leurs enfants ou leurs petits-enfants. Donc, allons le chercher pour le bien de tous. On nous parle beaucoup de mesures d'austérité, mais ce n'est pas inévitable. L'argent est là. Trouvons le moyen d'aller le chercher. Donc, je vais arrêter là. Je fais ma petite minute de pub, puisqu'on m'a ouvert la voie. Donc, on vient de se créer un partenariat avec Alain Deneau, qui a sorti un petit document de 80 pages, très approchable. Si vous voulez savoir les dessous vraiment des paradis fiscaux, comment ça marche, moi, j'ai appris beaucoup de choses là-dedans que je ne savais pas. C'est très approchable et ça s'appelle une escroquerie légalisée précise sur les paradis fiscaux. C'est disponible depuis une semaine. On peut l'acheter en ligne ou avec Éco-Société, qui est l'autre partenaire. Et à trois, avec Échec à paradis fiscaux, Éco-Société, Oxfam Québec, on a une grande campagne. Il y a des petits cartons qui sont à la porte là-bas, qui sont ici. Et vous pouvez signer une pétition. Vous pouvez participer à la consultation citoyenne. Si vous récupériez 5 milliards, vous en ferez quoi? Et on va utiliser ça pour influencer le prochain processus budgétaire du Québec et du Canada. Et vous pouvez appuyer notre déclaration si vous venez d'une organisation. On a déjà plusieurs syndicats et d'autres qui nous appuient. Donc, merci.